Alors, la lecture qu'on a faite tantôt nous amène dans un sujet qui est délicat, puis je l'ai mis directement dans le titre. La question de la soumission. La soumission, virgule, une puissance pour le mariage chrétien. Et mon message, c'est sur la soumission mutuelle, qui est un secret de puissance pour les relations entre chrétiens. J'étais vraiment mal pris tantôt parce que Claire est venue, et puis je croyais qu'elle allait parler 2 minutes max. Elle avait beaucoup à dire. Et alors, je me suis demandé, mais au fond, moi, je vais parler de la soumission. Il faudrait peut-être que je me soumette. Elle a quelque chose d'important à dire. Ou bien, est-ce que c'est elle qui doit se soumettre à moi? Ou est-ce que c'est la communauté qui doit s'exprimer? Bon, bref, ça s'est bien passé. Mais c'était vraiment une situation concrète où il fallait, en quelque sorte, décider, bien, est-ce que c'est ma volonté qui va primer ou celle de l'autre? Et ça, c'est dans le feu de l'action de la vie chrétienne, et ça se passe tout le temps comme ça, et particulièrement dans le mariage. Moi, ma femme s'appelle Cheryl, et elle est ici, elle est en bas, et j'aurai l'occasion de parler d'elle dans mon sermon, toujours en bien, vous allez voir. Et donc, voici, vous avez une image ici qui symbolise la soumission. En tout cas, pour moi, hein, ça c'est pour moi. Peut-être que chacun interprète différemment. Mais voilà la photo aussi du livre dont je m'inspire pour le message d'aujourd'hui, « Le mariage de Cathy et Timothy Keller », qui est un très bon livre et dont nous avons aussi une copie à la bibliothèque. En plus, avec le temps qui court, je vais essayer d'être rapido, là, parce que le temps passe. Seigneur, guide-nous. On est dans la période de Noël qui commence. On prépare ça, et vous savez, même si c'est un moment de joie, c'est un temps de stress et de tristesse pour beaucoup de gens et dans beaucoup de familles où les relations sont difficiles. Et moi, je veux commencer mon message en nous lançant un défi. Nous autres, là, à l'Oasis, préparons-nous pour un Noël de paix dans nos familles. Où est-ce qu'on va? On va vivre ça dans la plénitude du Saint-Esprit. Hein? On parle de la plénitude du Saint-Esprit dernièrement avec le livre des Actes. Préparons-nous à vivre un Noël dans la plénitude du Saint-Esprit. Et ça va passer, mes amis, par la soumission. La soumission, puissance pour le mariage chrétien. Peut-être que ce mot vous donne du stress. C'est un mot explosif, puis c'est un concept qui est détesté par l'espèce humaine. Il va contre notre nature profonde. Il évoque en plus des souffrances réelles quand on pense à l'oppression des femmes par les hommes à travers les siècles et les millénaires, quand on pense à la colonisation de certains peuples par d'autres peuples, et quand on pense à l'exploitation des ouvriers par des patrons et des riches, quand on pense même au christianisme qui, on a souvent dit, ça rend les gens moins capable de vivre la vie pleine parce que à cause de la soumission, ils deviennent sans ambition. Eh bien, moi, je viens vous dire ce matin que c'est parce que l'Évangile est vidé de sa force que finalement, il devient oppressif et que le concept de la soumission et qu'il faut comprendre dans son contexte et dans sa vraie puissance, ça peut devenir quelque chose de négatif. Mais en réalité, ce dont je veux vous parler ce matin, c'est une source de vie, une source de puissance pour le succès dans la vie. Alors, on va y aller étape par étape. Moi, je voulais vous parler de beaucoup de choses, là. On va aller vite. On va relire le texte quand même. Je vais lire. Écoutez bien. C'est Éphésiens 5, pour ceux qui veulent regarder dans leur Bible. Éphésiens 5, à partir du verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié lui-même pour elles. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Alors, je vais aller droit au but maintenant. Ce que Jésus nous propose ici comme mode de vie, c'est une existence révolutionnaire qui va de victoire en victoire. Et dans notre texte, il y a sous-entendu quatre combats qui débouchent sur des victoires dans notre vie. Premièrement, il faut recevoir Jésus-Christ, et en le recevant, on reçoit l'amour de Dieu. Il faut recevoir personnellement l'amour de Dieu. Deuxièmement, il faut vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Ça, on en a parlé la semaine dernière et je vais y revenir brièvement. Troisièmement, il faut pratiquer une nouvelle sorte de relation qui est basée sur la soumission mutuelle. Et puis quatrièmement, pour ceux qui sont en couple, il faut intensifier ou approfondir cette soumission mutuelle dans le creuset du couple. Alors, un creuset, c'est quoi? C'est un récipient qu'on chauffe très, 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 très beaucoup et au point où on met du métal dedans, puis ça fond le métal. Alors, pour ceux qui sont en couple, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est ça. Dans un sens, le couple, c'est un creuset, mais un creuset qui purifie le métal. Ces quatre victoires, donc, recevoir l'amour de Dieu, vivre la plénitude de l'Esprit, apprendre les nouvelles relations, apprendre le couple dans la soumission mutuelle, sont présentées de manière idéalisée ici, un peu comme étape par étape. Puis c'est vrai que ce qui est présenté ici, ça prend du monde pas mal solide dans la vie chrétienne pour faire ce que Paul demande ici. Et c'est comme s'il fallait vraiment maîtriser la victoire 1 pour passer à la 2 et ainsi de suite. Dans la réalité de nos vies, on travaille les quatre ensemble. Et des fois, on a l'impression qu'on est en train de perdre les quatre combats en même temps. Mais ce n'est pas vrai. Dieu t'aime. Il est venu te chercher. Il veut te donner la victoire. Amen. Et donc, persévère. Il va t'aider. Il va t'aider à vivre ces quatre choses qui s'entraident les unes les autres. On va les regarder une à la fois maintenant. Premièrement, recevoir personnellement l'amour de Dieu. C'est la base de ce qui se passe ici. Et c'est seulement avec ça qu'on en arrive à ce type de mariage chrétien qui est dans l'amour et la joie. C'est quoi l'Évangile de Jésus-Christ? Écoutez-moi bien. Je vais le résumer. Dieu m'avait créé au départ pour vivre une relation d'amour avec lui et avec le reste de la création. Mais j'ai été dévié par le péché. Au lieu de vivre dans cet amour, je suis devenu prisonnier de l'égocentrisme. Quand je dis « moi », c'est tous les humains, c'est ce que la Bible dit. Je suis recourbé vers mes propres désirs et la plupart du temps sans m'en rendre compte. Cependant, Dieu y est venu à moi en Jésus. Il est mort à ma place pour me réconcilier avec lui et pour recréer en moi la capacité d'aimer vraiment. Et Jésus me sauve, mais aussi il vient vivre en moi par le Saint-Esprit. Donc, lorsque je reçois Christ, et ça, je le reçois simplement en lui demandant d'entrer dans ma vie, je suis inondé de l'amour de Dieu et je deviens, par lui, capable de me tourner vers l'extérieur, donc de me détourner de mon égocentrisme pour vivre pour Dieu et les autres. Donc, à la base, il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que tu dises oui à Dieu. J'aimerais inviter ceux qui ne l'ont jamais fait à considérer de recevoir Christ maintenant. Et je vais prier. Je vais prier une prière, puis si ça correspond à là où tu en es, bien, prie cette prière silencieusement avec moi. Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que Dieu, tu m'as créé pour aimer. Mais j'ai vécu à ma propre manière. Jésus, je crois que tu es mort pour moi, pour me réconcilier avec Dieu. Je te reçois. Refais en moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Amen. Si tu as prié cette prière pour la première fois ou la deuxième fois, tu peux venir me voir ou peut-être le mentionner à la personne qui t'a invité et vous pourriez en parler aujourd'hui. C'est la plus grande décision que tu peux faire dans ta vie. Puis, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui va t'aider dans toute ta vie, y compris dans ta vie de couple. Deuxième victoire que Dieu veut pour toi, c'est la plénitude de l'Esprit. Et vous savez, on a lu ce texte la semaine dernière, ou en tout cas des sections. Et une chose qu'on a vue dernièrement, Dieu, c'est un Dieu trinitaire. C'est un Dieu en trois personnes qui sont en communauté de toute éternité. On sait que Dieu le Père, c'est un peu le boss, c'est un peu le source de tout, mais il n'est pas un dictateur. Dans la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a l'union, il y a une unité de volonté dans l'amour. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu entre en toi, en quelque sorte, tu es invité dans la vie de Dieu. Le party qui existait de toute éternité en Dieu, tu es comme invité dedans. Et c'est pour ça que ce que Paul, l'apôtre Paul, dans le verset 19, nous encourage à faire comme résultat ou comme conséquence normale, c'est très joyeux. Il dit, dites-vous les uns aux autres des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il y a comme une atmosphère de fête, là, qui... Puis c'est pas juste pour le dimanche matin. On va chanter avec joie tantôt, mais moi, j'approuve les jeunes et les moins jeunes qui écoutent la musique chrétienne toute la semaine avec leur iPhone ou que sais-je. Il y en a qui chantent à la maison. Il y en a qui chantent en public. Et moi, je me souviens de Jean-Lambert Bomolo, qui, quand on voyageait ensemble en Alberta, nous étions dans un sentier dans la nature. Et c'était pas prévu que je parle de toi, là, mais je me souviens, on était en public, puis il était tellement émerveillé par les montagnes qu'il commençait à chanter, puis à prêcher. Mais c'est un peu ça. C'est cette joie qui déborde jusque dans nos conversations, jusque dans notre vie toute la semaine. Chacun à sa manière. Dans cette joie-là, il y a lieu de s'oublier soi-même. Et j'en arrive à mon point que quand tu reçois Jésus-Christ, puis que tu vis cette joie, pourquoi tu es joyeux? Pourquoi est-ce qu'on est joyeux quand on est sauvé par Jésus-Christ? Je ne sais pas si quelqu'un aimerait dire une... Oui, vas-y. On n'est plus seul. On a Dieu avec nous. On n'est plus seul. Est-ce qu'il y a d'autres raisons d'être joyeux ou joyeuse? On est sauvé. Puis ça veut dire très spécifiquement, d'abord, on est sauvé d'un mauvais résultat pour notre vie éternelle. On va être dans le royaume de Dieu pour l'éternité. On est sauvé aussi de beaucoup de problèmes dans cette vie-ci. Oui. Un sens, un objectif. Oui. La guérison, oui. On est en contact avec le grand guérisseur. Merci, mon Dieu, oui. Oui. J'ajouterais aussi notre avenir, nos intérêts propres sont maintenant dans sa main. Hein? Et je crois que ça, c'est très important quand on pense à nos relations, parce qu'elles doivent passer de « je vis mes relations en partie pour défendre mes intérêts » versus « je remets mes intérêts propres, mes inquiétudes propres à Dieu et je deviens ouvert aux intérêts des autres ». Je deviens ouvert aussi au plan global de Dieu qui veut amener le bien dans le monde. Alors ça, c'est la deuxième victoire, c'est que cette vie du Saint-Esprit nous amène dans la joie et nous équipe pour des relations mutuelles nouvelles. Et parlons-en maintenant de ces nouvelles relations et où est-ce que... la soumission entre en jeu. Paul dit au verset 21 ici, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » C'est le point commun entre la vie dans la Trinité. Tantôt, je parlais de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que Dieu existait avant nous autres. Hein? Et avant qu'on existe, il y avait ce genre de soumission mutuelle à l'intérieur de Dieu. Évidemment, on n'était pas là pour le voir, mais la Bible nous en dit assez pour le savoir. Dans l'Église, c'est-à-dire la communauté de Dieu, on est appelé à ce même type de relation. C'est pour ça que Paul le dit ici. Puis, quand il va parler du mariage dans un troisième temps, il va répéter la même chose, parce que c'est la même chose. Quand Dieu est là, on ne cherche pas notre propre intérêt, mais on le remet à Dieu pour ensuite se concentrer sur les intérêts des autres. On commence à prendre sérieusement les projets des autres. On apprend aussi à identifier avec lucidité nos propres désirs et nos propres projets. Parce qu'on en a, on est quand même humain, on est fait pour en avoir. Mais la manière qu'on va les exprimer, que ce soit dans la communauté ou à notre conjoint, va être marquée par la sérénité, va être marquée par l'humilité, pas par l'égocentrisme ou la panique. Parce que quand on est vraiment dans une communauté à 100%, oui, on peut décider de peut-être attendre avant d'exprimer ce que moi je veux, parce qu'on voit qu'il faut que l'autre s'exprime et on veut que l'autre s'exprime. Mais aussi, quand j'exprime, moi, ma conviction ou mon intérêt ou le projet que moi, je trouve important, eh bien, je donne une occasion à l'autre personne de choisir librement de se soumettre à ma volonté ou mon projet. Et ça aussi, ça peut lui apporter la joie. Librement. Donc, je ne m'impose pas. Donc, tout ça, ça crée la possibilité de soumission mutuelle en vue d'un épanouissement mutuel. Et quand ça marche, c'est quelque chose de vraiment beau à voir. Hein, on est créé pour ça. Dieu nous a créé pour vivre la communauté. Pas vivre chacun pour soi. C'est ce qu'on vit la plupart du temps à cause de ce que le monde est devenu. Mais on n'a pas été créé pour ça. C'est un peu comme, regardez les outardes, ils sont déjà passés les outardes, ça fait un bout de temps. Les outardes, je pense que Dieu les a vraiment créées pour voler majestueusement en équipe, là, hein, en forme de V. C'est tellement beau quand ça marche. Puis les outardes le font marcher, puis c'est beau. Vous savez ce que c'est les outardes, tout le monde? C'est les oies canadiennes, là, qui sont brunes et blanches, sont tellement belles et sont créés pour voler en équipe. Nous aussi, on est formés pour vivre en communauté et en couple. Moi, j'aimerais vous parler d'une expérience vraiment positive de couple, en fait, en rapport avec la soumission mutuelle. Un exemple positif. Je pourrais vous parler de choses qui ont moins bien marché entre Cheryl et moi, et Dieu nous aide avec ça. Bien, une chose qui a vraiment été merveilleuse, c'est dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on a fait, Cheryl et moi, quand on était fiancés? C'était peu avant notre mariage, et on avait un conseiller financier qui nous a dit, « Vous savez ce que vous devriez faire? Fermez vos comptes personnels, puis ouvrir un seul compte bancaire conjoint. » Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ce n'est pas une surprise. C'est ce que faisaient beaucoup les couples autrefois. C'était peut-être la norme. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Alors, je ne veux pas partir un débat là-dessus. Il y aurait des pour et des contre. Mais je peux vous dire que dans notre cas, on ne le regrette vraiment pas du tout. Ça fait 22 ans qu'on vit avec des comptes conjoints. Un compte de chèque conjoint et, mettons, d'autres comptes qui sont pour d'autres choses, mais ils sont conjoints. Et ça a été vraiment positif, même s'il y a eu toute une adaptation. Quand tous les argents sont en commun, tous les revenus en commun, les dépenses, les investissements, les dons à l'Église et autres, bref, toutes les décisions financières, bien, ça nous a poussé à la soumission mutuelle. Surtout avec une femme comme la mienne, et moi aussi, j'ai la tête dure, on a vraiment été poussé à tout discuter. C'est vrai qu'à la longue, on finit par se connaître et il y a des décisions mineures qu'on peut prendre individuellement, mais ma règle générale, c'est transparence, simplicité, tout discuter. Et puis, ça a beaucoup contribué à notre sanctification. Parce qu'on a tous les deux appris à relativiser nos désirs personnels et pour pouvoir venir à la table et décider quoi faire. Et parfois, c'est Cheryl qui, parce qu'elle voulait me faire plaisir, elle a soumis sa volonté à la mienne. Et parfois, c'est l'opposé. Et on finit par aimer ça. Puis j'ai lu dernièrement que même statistiquement, quand tu vis en couple, alors que célibataire, tu es convaincu que tu n'es pas capable financièrement de vivre en couple, de fonder une famille, mais généralement, ça a tendance à aller mieux pour toi financièrement de vivre dans une relation où il y a de la redevabilité financière avec une autre personne, surtout si c'est dans l'amour. Alors, quelle occasion, en tout cas pour nous, d'apprendre la soumission mutuelle. Je ne suis pas en train de dire que tous les couples doivent faire ça, mais si ça vous intéresse, venez me voir et on pourra en parler. Ça nous amène à mon dernier point, le quatrième point. Comment est-ce que cette soumission mutuelle est approfondie dans le couple? Ben, en fait, j'en parle déjà puisque je donne un exemple de ce qui se passe dans le couple. Dieu ne nous a pas donné le mariage chrétien pour nous faire souffrir. Non. Il veut qu'on vive la joie de l'Évangile dans le foyer. En fait, toute cette histoire-là de la femme est comme l'Église, puis l'homme est comme Christ, c'est en fait que le couple chrétien devient une genre de parabole ou d'image de l'Évangile, mais dans le monde, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que les rôles sont différents, puis ils sont semblables en même temps. Le mari est appelé à jouer le rôle dans cette pièce de théâtre, dans cette parabole, jouer le rôle de Christ. Et il se sacrifie pour elle, il se posait. Son but, c'est de voir son épouse s'épanouir. La femme joue le rôle de l'Église. Elle se soumet dans la confiance, comme à Christ. Elle vise aussi l'épanouissement de son mari. C'est différent. Et puis, chaque couple va le conjuguer différemment. Mais dans les deux cas, il y a un renoncement à son propre intérêt. Hein? Et c'est pour ça que Paul commence en disant « Soumettez-vous les uns les autres, les uns aux autres. » Dans leur livre « Le mariage », Cathy et Timothy Keller donnent une description réaliste, je crois, de ce qui se passe dans le cœur d'une personne mariée plusieurs fois par jour quand son couple est ensemble. Alors, une situation se présente et il faut décider quoi faire. Puis, qui va faire quoi? Alors, une couche a changé. Hein? Les couples qui ont des enfants connaissent ça. L'un des deux est en train de regarder la game de hockey et puis l'autre a très mal au dos, veut aller se coucher puis a besoin d'un massage. Oui, c'est drôle, hein? Mais c'est moins drôle quand ça arrive. Oui? Toi, tu as besoin d'un massage? Il y a toutes sortes de situations comme ça qui arrivent dans la vie de tous les jours. Et ce que Timothy et Cathy disent, c'est que, en gros, dans ta tête, il y a comme trois options qui se présentent à toi. Premièrement, je peux offrir de soumettre ma volonté à l'autre avec joie, option 1. Option 2, je peux offrir de me soumettre à mon conjoint, mais en bougonnant, donc de mauvais gré, option 2, avec le cœur froid. Troisièmement, je peux insister d'imposer ma propre volonté d'une manière égoïste. Et je veux dire, je dis les choses assez crûment, mais c'est un peu ça, moi, je trouve. Et dans le mariage qui s'épanouit, le chemin du vrai bonheur, c'est lorsque les deux partenaires travaillent tous les deux à pratiquer l'option 1 le plus souvent possible. Hein? C'est assez simple comme formule, mais donc, j'offre de soumettre ma volonté à celle du conjoint avec joie. Ça ne sera pas parfait, je vous le dis tout de suite. Puis peut-être que toi, tu te trouves dans un mariage où tu sens que l'autre, à ce stade-ci de sa vie, est pas, comprend pas l'option 1. C'est possible que tu ressentes ça. Et des fois, c'est vrai. Des fois, tu te trompes, mais des fois, c'est vrai. Pratique-la quand même, l'option 1. La soumission à mon conjoint avec joie. J'ajoute aussi, apprends à exprimer ta volonté, ton désir avec humilité, avec clarté, avec humilité. Et tu peux sauver ton mariage lorsqu'il passe par une période difficile comme celle-là. C'est difficile de vivre comme ça. Mais il faut juste se souvenir qu'à la lumière de l'Évangile, que ce Dieu dont on ne s'occupait même pas parce qu'on avait décidé de vivre sans lui, il est venu quand même nous sauver, nous transformer, nous apprendre à aimer. Eh bien, il nous amène dans ce nouveau type de vie, puis il faut que tu aies invité à le vivre jusque dans ton mariage. Voilà, je vais conclure maintenant. J'ai parlé de 4 combats qui sont aussi 4 victoires. Premièrement, tu es invité à recevoir l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, vivre la plénitude de l'Esprit. Troisièmement, pratiquer des nouvelles relations basées sur la soumission mutuelle. Puis quatrièmement, approfondir cela dans le creuset de ton couple. Alors, en cette période de Noël, si importante pour nous chrétiens, mais si pleine de problèmes potentiels, pour les familles, pour les couples. Engageons-nous à être vigilants devant les manifestations de notre égocentrisme. Souvenons-nous de l'amour de Dieu qui nous a sauvés tels que nous étions. Acceptons sans cesse à répétition d'écouter notre conjointe, notre conjoint, et de nous mettre à son service. Puis si l'amour manque pendant la période de Noël, ça peut arriver, je plaide coupable, ça m'est déjà arrivé, et même que la grosse chicane poigne durant le temps de Noël, ça peut arriver. Ne soyez pas surpris ou découragés. Je sais que ce n'est pas bien, mais Dieu est là pour vous aider. Ressaisissez-vous, demandez pardon. Soyez humble, reconnaissez vos manquements. Demandez pardon à Dieu, à votre conjoint, puis reprenez vos efforts de plus belle. Dieu est avec vous. Je vous souhaite un joyeux Noël, puis un Noël béni. On va arrêter là. Alors, prenez un moment pour prier, puis je vais inviter. En fait, nous allons procéder à la table du Seigneur dans quelques instants, et je vais inviter Richard, après la prière, à venir nous conduire. C'est la table aussi de l'amour et de la soumission mutuelle. C'est la table qui nous rappelle comment Jésus s'est soumis à Dieu et à nous, dans un sens, pour nous aimer, pour nous sauver. Seigneur, Père, Fils et Esprit, merci. Puis, moi, je veux prier au nom de la personne qui souffre en ce moment dans son cœur, la personne qui se dit, Wow, je suis vraiment loin de ce que je voudrais être. J'ai vraiment des problèmes dans ma vie. Et Père, donne-lui la consolation ce matin. Donne-lui la foi que tu vas l'aider là où elle est. Puis qu'elle peut venir à ta table pour dire « J'ai besoin de toi, Jésus. » Puis je veux que tu fasses de moi la personne que tu veux que je devienne. Amen.